Voilà, donc trois communications. La première, je le rappelle, pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin, a été annulée. Pour la personne n'a pas pu venir jusqu'à nous pour des problèmes de transport. Donc cet après-midi, trois communications, dont trois en géographie. Et enfin, quand je dis géographie, c'est au sens large, puisqu'il y en a une qui est un peu tôt en histoire. Donc la première va être celle de Philippe Briat. Donc justement, qui va commencer avec la dimension historique. Et oui, je préfère que tu t'en serves parce que ça nous permettra d'avoir. D'accord. Essaye. Ouais. Okay, on enregistre donc les communications. Voilà, je te laisse donc présenter plutôt 20 minutes pour se garder une dizaine de minutes de questions. Ouais. Et je te ferai signe 2-3 minutes avant la fin pour qu'on dépasse pas, que tout le monde ait bien le temps de présenter.
D'accord. Oui, donc Philippe Briat. Équiptis académique de l'Académie de Lyon, et puis j'enseigne donc dans un lycée de la Loire, le lycée François Mauriac à Andrézieux. Donc il s'agit ici d'un exemple d'utilisation d'un SIG avec des élèves de première qui porte sur une séquence d'histoire. Quoi. Donc cette séquence, elle pourrait s'inscrire dans le programme de première LES. La partie qui s'intitule « La France du milieu du 19e à 1914 », et plus précisément dans deux sous-parties, la première étant la sous-partie de la Deuxième République à 1879, et la République, l'enracinement d'une culture politique. Alors les objectifs, tout d'abord, c'est d'abord traiter ces aspects du programme, et puis aussi initier les élèves à l'utilisation d'un SIG. Pour comprendre des phénomènes historiques, ce qui n'est pas forcément toujours habituel. Alors tout d'abord, rapidement, la problématique et puis peut-être une petite mise au point scientifique. C'est dans les années 60-70 que les historiens commencent à s'intéresser au phénomène de la politisation avec deux, je dirais, personnages un peu précurseurs. Tout d'abord, Maurice Agulon et Eugène Weber. Donc Maurice Agulon s'intéresse essentiellement aux campagnes du Var, et implicitement il a tendance à assimiler politisation et choix politiques en faveur de la République. Depuis, les travaux qui ont été menés ont quand même conduit fortement à nuancer les deux et à distinguer politisation d'une part et puis choix politique à gauche ou à droite. Je ne vais pas trop insister, parce que ce n'est pas l'objet ici, sur tout le développement historiographique de la question. Si on voulait faire le point, avoir un point récent sur tout cela, les questions de politisation, les questions de choix politiques, il faudrait consulter l'article de Laurent Le Gall, qui est à mon avis la mise au point la plus récente sur toutes ces questions, hein, sur l'histoire de la politisation et de la vie politique dans les campagnes françaises. C'est un article que Laurent Le Gall avait fait à l'occasion des programmes du CAPES et de l'agrégation, lorsque les campagnes au 19e et au 20e siècle avaient été mises aux questions de concours. Donc je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas du tout ici d'une étude à visée scientifique. Donc il s'agit davantage de quelque chose qui est fait pour des élèves de lycée. Si on voulait utiliser véritablement un SIG dans une perspective d'études scientifiques, il faudrait quand même utiliser les choses différemment. La problématique se poserait différemment, elle ne serait pas celle-ci. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'étudier une des formes à laquelle la politisation a abouti, c'est-à-dire l'adhésion à la République. Ce que je veux faire, c'est d'abord essayer d'apprendre aux élèves à manier un SIG, formuler des hypothèses et essayer de les vérifier grâce à cet outil. Et puis aussi à produire des analyses nuancées, parce que très souvent, pour les élèves, c'est ou noir ou blanc la réponse à une question, et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, l'outil va aussi les conduire peut-être à dire oui, ça peut être cela, mais ça peut aussi être autre chose. Bon. Donc ma problématique, c'est la suivante. Est-ce que l'isolement de certaines communes rurales a été un obstacle à l'adhésion à la République, ou au contraire, on pourrait la formuler dans l'autre sens? Est-ce que les communes rurales, qui finalement étaient bien reliées à l'espace national, est-ce qu'elles ont adhéré à la République d'abord par rapport au reste de l'espace rural? Bon, est-ce que les routes, les gares ont pu favoriser l'adhésion à la République par la diffusion des idées républicaines. Bon, c'est une hypothèse. En fait, les choses seraient beaucoup plus compliquées scientifiquement aujourd'hui. Hein. Donc l'intérêt du SIG, d'abord on va pouvoir juxtaposer des données vectorielles, donc le relief, les axes routiers pour ce qui nous intéresse, les gares, la présence éventuellement d'écoles élémentaires et des données thématiques. On pourrait peut-être construire évidemment des cartes électorales, faire de la cartographie thématique, mais on aurait ensuite des difficultés pour confronter les données électorales avec les données ponctuelles, vectorielles, relief, les axes routiers, les gares, etc. On va aussi peut-être pouvoir dépasser les découpages traditionnels, par exemple s'intéresser à une route nationale ou s'intéresser à une aux communes qui abritent une gare, et puis voir si les communes qui sont à 5, 10 km des routes ou des gares ont davantage voté républicain ou ont voté républicain plus tôt. Bon, voilà, des hypothèses comme ça. Créer des espaces d'études qu'on ne pourrait pas créer sans le SIG. Alors la mise en œuvre de la séquence. Donc tout d'abord, en classe entière, je commence par présenter la plateforme que vous allez voir dans quelques instants, la présenter au vidéoprojecteur aux élèves, leur présenter aussi ce qu'est un SIG. Ensuite, en demi-groupe, à deux par poste, les élèves réalisent la séquence sur la plateforme GeoWeb Explorer. La séquence, vous allez le voir, est divisée en trois parties de difficulté croissante, une première partie étant en fait essentiellement une prise en main de l'outil. Et enfin, en classe entière, on fait un retour partiel au vidéoprojecteur sur la séquence. Bon, pour faire le point sur les difficultés rencontrées par certains élèves, ceux notamment qui n'ont pas pu aller au bout, et éventuellement aussi pour élargir la réflexion sur la question de la causalité en histoire. C'est-à-dire qu'on va éventuellement peut-être partiellement repérer, je dis n'importe quoi, là, une corrélation entre le vote républicain et puis la proximité des routes nationales. Est-ce que c'est cette proximité des routes nationales qui explique le vote républicain ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Bon, une interrogation ensuite davantage sur la méthode historique. Alors avant d'en venir au retour d'expérience, je vais peut-être passer à la plateforme pour vous la présenter. Voilà. Donc la plateforme est en ligne sur le serveur de l'Université de Saint-Étienne. Vous pouvez voir l'adresse ici. Lorsque l'élève arrive, il a d'abord une première étape que vous ne voyez pas ici, où on demande un mot de passe et un login qui est commun à tous les élèves et à tous les utilisateurs. Et ensuite, l'élève rentre en accès utilisateur ou en accès formateur. Donc, enfin, on peut rentrer sur la plateforme, pardon, en accès utilisateur ou en accès formateur. L'élève, lui, va rentrer en accès utilisateur. Bon. Vous voyez ici un certain nombre de séquences et des données correspondantes qui sont placées sur la plateforme. Donc, l'élève, en l'occurrence, irait ici chercher sa classe. Moi, comme je ne suis pas élève, je vais me connecter en tant que formateur, mais je vais voir tout ce que verront les élèves. Hein, bien que connecté ici en formateur, je vais pouvoir faire la séquence comme si j'étais élève. Donc, je rentre mon mot de passe et mon login personnel. Et je me connecte. J'arrive donc sur la liste des tutorats disponibles. Donc, les tutorats que j'ai mis en ligne, donc l'implantation de la République dans le département de la Loire. Donc, on a ici un certain nombre de couches de données qui s'affichent, et puis une fenêtre dans laquelle on va avoir une introduction. Bon, la fenêtre, elle a l'air un peu coincée, là, je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Ouais. Bon, voilà. Donc l'élève, introduction, qu'il va consulter, et ensuite il va rentrer dans les différentes étapes, chaque étape étant associée à un certain nombre de questions auxquelles il peut répondre. Donc première question très très simple, la première étape, je le rappelle, est là simplement pour les guider dans la prise en main de l'outil. Hein. Donc c'est vraiment des choses relativement simples, mais ce qui pose surtout problème aux élèves à ce niveau-là, c'est la prise de contact avec un outil dont ils n'ont pas forcément l'habitude, la notion de couche notamment, de superposition. Bon, vous avez ici les différentes couches de données auxquelles ils peuvent avoir accès, Déjà, ce n'est pas évident pour tous de comprendre que lorsqu'ils veulent afficher une couche, il faut qu'ils la sélectionnent dans la colonne de droite. Lorsqu'ils veulent agir sur la couche pour lui appliquer certaines commandes, il faut qu'ils la sélectionnent dans la colonne de gauche. Hein, donc, des choses quand même qui ne sont pas forcément tout de suite évidentes pour des élèves qui n'ont jamais vu, jamais utilisé un SIG. Donc, l'objectif de cette étape 1, c'est de vraiment de les guider donc avec des questions qui sont plus des questions de simple observation au départ. Hein. Et puis, au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'ils passent, donc première étape, vous avez 5 questions, prise en main de l'outil. Étape 2, là, on commence à rentrer dans des choses qui demandent davantage de réflexion. Bon, on peut voir peut-être la dernière étape. Donc, dans la dernière étape, ils sont placés dans la situation fictive d'être des représentants du Parti républicain qui voudraient accroître la diffusion des idées républicaines dans les campagnes de la Loire. Et il s'agit pour eux, en tenant compte de ce qu'ils ont vu dans les étapes précédentes, de produire une carte qui justifie les choix d'implantation des propagandistes qu'ils vont disposer dans le département. Alors, voilà, l'idée est la suivante. Bon, vous avez un nombre de propagandistes limité. Vous avez appris et repéré dans la séquence quelles étaient les zones où les idées républicaines étaient relativement mal implantées. Où est-ce que vous allez implanter des propagandistes? Pourquoi justifier, produisez une carte? Toute dernière question. Voilà, donc produire une carte à la plus grande échelle possible, comportant le relief, comportant les routes, les gares, comportant le chef-lieu. Bon, la question 1. Donc voilà, l'élève passe d'une question à une autre en cliquant. Donc, je n'ai peut-être pas précisé que l'élève répond soit en cochant simplement une case. On peut avoir des questions où finalement, il a plusieurs réponses qui lui sont proposées. Mais il peut aussi rentrer du texte et il peut aussi produire une carte, hein, exporter une carte. Toutes ces réponses sont enregistrées sur la plateforme. Il peut les modifier à tout instant. Tant qu'il n'a pas terminé, il peut revenir. Et même, éventuellement, s'il n'a pas terminé la séquence et s'il dispose d'un accès à Internet chez lui, il peut continuer la séquence chez lui, modifier les résultats qu'il avait déjà enregistrés. Et ensuite, la correction se fait de la part du professeur en se connectant en mode utilisateur cette fois-ci et en allant consulter les réponses des élèves. Bon, peut-être... vous montrer quelques éléments du fonctionnement de la plateforme. Donc là, on a la carte de la Loire par canton. Donc là, on va pouvoir éventuellement faire une classification thématique. Le serveur est un peu long, apparemment. J'espère qu'on va le voir fonctionner. Enfin, disons que vous avez toutes les fonctionnalités classiques d'un SIG. Hein. Possibilité de zoomer, possibilité de faire des classifications automatiques, des requêtes. Bon, je ne sais pas si on va y arriver, là. Section attributaire, bon. Je précise peut-être... que tous les outils que vous voyez là sont configurables, c'est-à-dire que lorsque le professeur fait sa séquence, c'est lui qui choisit les outils qu'il donnera aux élèves ou qu'il ne donnera pas pour ne peut-être pas leur compliquer trop la tâche. Donc tout cela est configurable. Les questions posées et les formes de réponse sont complètement configurables en mode utilisateur. Par contre, l'élève, une fois qu'il est sur la plateforme, ne peut pas modifier les données, ne peut pas créer une couche et l'enregistrer. Il n'a qu'accès aux données. C'est de la consultation et du traitement des données en ligne, hein, mais pas de modification. Bon, je sais pas si on... Bon, si j'ai un petit peu de temps, je reviendrai à la plateforme. Je termine peut-être sur les retours d'expérience et puis sur quelques remarques concernant l'utilisation des SIG en histoire. Donc, je reviens à mon affaire, là. Voilà. Alors moi, ce que j'ai pu observer pour l'avoir utilisé avec deux classes de première L à deux années différentes, c'est tout d'abord que les élèves réagissent de manière très différente. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont prendre assez rapidement l'outil en main et qui vont avancer, d'autres qui ont plus de mal, pour qui la première étape pour être menée à bien, a quand même besoin de la part de l'enseignant d'une aide. Seuls, ils auraient du mal à s'en sortir. Grande disparité dans la rapidité d'exécution de la séquence également. C'est-à-dire que vous avez des groupes qui auront fini au bout de 2 heures sans problème, d'autres qui n'en seront encore qu'à l'étape 2 et qui n'arriveront pas à démarrer l'étape 3. Donc finalement, un travail qui est assez discriminant au fur et à mesure de son avancement, quoi, où on voit réapparaître l'hétérogénéité des élèves. Alors peut-être quelques spécificités, à mon avis, bon, il y en a sans doute d'autres, propres à l'utilisation des SIG dans l'enseignement secondaire en histoire. D'abord, c'est les jeux de données qui demandent un très long travail de constitution. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple des fonds de cartes communaux ou cantonaux de la Loire, il a fallu les redessiner pour beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait eu modification du tracé des cantons, il y avait eu des communes qui avaient fusionné, d'autres qui, au contraire, s'étaient partagées. Donc je suis parti d'un fonds de cartes communal et cantonal actuel, mais je l'ai modifié pour le faire correspondre aux dates auxquelles je voulais qu'il corresponde, à savoir 1876. Pour les élections législatives. Donc, constitution des données, il faut rentrer ensuite les données, évidemment, là, toutes les données électorales, il a fallu les rentrer à main. Donc, il me semble que pour un SIG historique, de toute façon, il y aura forcément un travail de constitution des données qui sera beaucoup plus long que pour des données géographiques qu'on peut acheter ou récupérer librement par ailleurs. Il y a une dimension supplémentaire à prendre en compte, c'est le temps. Et ça peut poser, alors pour ce qui concerne cette séquence, ça n'a pas été le cas, mais ça peut poser des fois des problèmes techniques au niveau de l'outil. C'est-à-dire que si on veut notamment faire des requêtes sur des cartes qui correspondent à des dates différentes, on peut rencontrer des problèmes techniques. Bon, c'est pas toujours le cas, mais disons qu'il y a des choses qui complexifient un peu l'utilisation parfois des SIG. Et donc moi, il me semble quand même que si on veut utiliser les SIG en histoire, il faut peut-être les utiliser en associant les élèves à la constitution du jeu de données dans le cadre, par exemple, de l'ECJS ou dans le cadre de TPE s'il s'agit d'une classe de première, parce que ça me paraît quand même une tâche très importante pour un enseignant en termes de temps, de constituer tout seul son jeu de données. Donc là, si on y associe les élèves, c'est aussi la possibilité de les faire réfléchir à d'autres éléments du travail historique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une donnée en archive, comment elles ont été constituées. On peut aborder d'autres aspects des choses, à condition... On reste 5 minutes encore. 2 minutes, d'accord. Donc voilà, moi, il me semble qu'il y a une piste peut-être à chercher de ce point de vue-là, d'autant que, bon, mon jeu de données, j'en suis bien conscient, à part quelques collègues de la Loire, je vois pas qui tellement il va intéresser, quoi. Alors que, bon, un jeu de données en géographie sur Lyon, il peut être utilisé par un autre collègue d'une autre académie sans aucun problème pour étudier les espaces urbains. Bon, ici, c'est quand même quelque chose qui reste très local. Donc, s'il s'agit de faire un jeu de données, y passer un temps énorme simplement pour une utilisation très locale, bon, associer les élèves me semble une solution. Il me semble qu'il y a des pistes aussi intéressantes en croisant les SVT et l'histoire géo. Moi, j'aimerais bien travailler avec une collègue, là, si on arrive à le faire, par exemple, sur les étangs de la plaine du Forêt. Quoi. Là, il y aurait une dimension à la fois environnementale, l'évolution des étangs au cours du temps. Hein. Les étangs existaient au Moyen-Âge, ils se sont beaucoup transformés, ils se sont déplacés, certains ont disparu, etc. Et une dimension historique, hein, puisqu'avec les cartes de Cassini, les cartes intermédiaires, les étangs aujourd'hui, il y aurait un travail, à mon avis, histoire, géo, SVT, qui pourrait être intéressant. Il y a sans doute d'autres pistes, d'ailleurs, à exploiter de ce point de vue-là. Quoi. Mais toujours avec l'idée, les élèves associés à la production des données. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup d'avoir respecté le timing. Ça nous laisse un peu de temps comme ça pour les questions. Donc, si quelqu'un dans la salle a une question.
Oui.
Vous dites que vous y avez passé beaucoup de temps. C'est quoi beaucoup de temps? Enfin, combien de temps vous y avez passé pour préparer cette séquence? Mettre en place sur la plateforme, etc.
Non, le travail sur la plateforme, c'est pas ça du tout le plus long.
Mais je veux dire tout. La totalité du truc.
Le temps, à mon avis, les deux tiers ou les trois quarts du temps, c'est la modification des fonds de cartes, c'est l'entrée à la main de manière assez fastidieuse des données électorales, c'est la création de certaines couches, retrouver les gares qui existaient à l'époque, quand les gares ont été créées dans la Loire, les routes qui existaient. tout un travail en archives, bon, que j'ai fait parce que ça me servait par ailleurs pour un travail de thèse personnelle qui peut-être aboutira un jour, j'en sais rien, mais je l'aurais peut-être pas fait si. Et puis bon, parce que j'avais aussi des heures de rémunération dans le cadre de l'INRP. Mais voilà, pour un collègue, faire un tel travail, ça me paraît énorme, quoi. C'est quand même des heures de travail. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 320 communes dans la Loire, hein, bon, ça change au cours du temps, mais pour rentrer les données électorales des législatives de 1876, c'est presque une journée de travail, quoi. Parce qu'après, il faut vérifier les données, faire des contrôles avec Excel. Quand on a tant de données à rentrer à la main, très vite, on fait des erreurs de frappe. Hein. Donc il faut vérifier si on n'a pas rentré n'importe quoi. Taper tout ça, c'est vite du temps, hein.
Pardon, je prends la parole, mais j'ai été très étonné par le fait que tu dises que justement c'était un jeu local qui pouvait être utilisé que localement. Alors je comprends bien que c'est sur un département donné, c'est une zone donnée, mais ouais, moi je me souviens, j'étais en Nouvelle-Calédonie, on avait des grands débats pour l'enseignement de l'ESVT, on faisait la faune du lagon. Je leur disais, faites un peu la hêtresse à Pinière ou des choses comme ça, ça leur changerait les idées, ce serait un peu plus exotique. Et j'ai l'impression que les concepts, de toute façon, d'histoire que tu développes derrière, ils sont universels probablement et que ça pourrait être utilisé par d'autres enseignants et du coup le problème se pose moins de passer du temps s'il y a derrière il y a une utilisation des jeux de données pour les enseignants.
Voilà, c'est une remarque. Oui, je sais pas, moi j'avais peut-être un peu le sentiment que bon ben un collègue de ne serait-ce que de l'Ain, bon ben il a peut-être envie de parler davantage des communes de l'Ain, que ça évoquera peut-être plus de choses pour ses élèves, mais bon, peut-être, je sais pas, ouais, peut-être.
Moi, j'avais une question très simple. Oui. J'avoue mon ignorance. Qu'est-ce que le CJS ?
Ah, le CJS, c'est l'éducation civique et juridique. D'accord. Merci. Donc, ça représente, pour des élèves de seconde, 2 heures tous les 15 jours.
J'étais peut-être pas là au début. C'est ouais. Quel niveau d'élèves ?
C'est des premières LES. Ah, d'accord. LES. Oui, parce que le programme d'ES n'aborde pas tellement ces questions-là. Donc, c'est plutôt des premières LES.
J'ai oublié de demander de vous présenter...
Oui. D'accord.
Bon. C'est bien, ça tombe sur moi. Donc, Louis-Pascal Jacquemont, je suis inspecteur d'académie pour Grenoble. Deux remarques qui me paraissent intéressantes. C'est vrai que vous avez tort d'être restrictif sur l'idée que le travail fait sur ce département ne pourrait pas servir ailleurs. Pour une raison simple, c'est qu'il ne servira pas de la même manière. Il y a une dimension qui ne sera pas la même, c'est la dimension, j'allais dire, d'investissement personnel des élèves, puisqu'ils connaissent les lieux. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que la séquence, elle soit également pensée, pas exclusivement, me semble-t-il, dans le travail, dans la perspective d'intéresser des individus dont ce sont un petit peu les racines ou les lieux de vie. Mais par contre, en termes de modèle de travail, comme le disait le collègue, et d'analyse d'ensemble, les concepts ou les différents éléments de raisonnement sont les mêmes. Donc il arrive très facilement que vous preniez, on voit prendre dans des classes, des lieux, je pense par exemple des analyses démographiques ou d'analyse de graphiques démographiques de tel ou tel secteur. On a vu Goubert piller longuement pour Beauvais-le-Beauvaisis, ça n'a jamais gêné quelqu'un de le faire et de l'extrapoler pour en tirer des conclusions générales sur la démographie. Donc je pense que là, il faut peut-être s'interroger, me semble-t-il, hein, sur la façon dont le produit que vous réalisez et la démarche intègrent l'idée que ça s'adresserait également à un autre public dans un autre cadre, hein. C'est, me semble-t-il, le seul élément. Et je crois que ce raisonnement que je tiens là, il est valable pour toutes les études de cas, hein, pour tous les exemples. Il y a un autre point sur lequel, alors, sur le plan de l'exemple que vous donnez, vous me permettrez simplement une petite remarque, c'est que les chemins vicinaux et les routes ont été définis par la monarchie de Juillet, donc finalement les ruraux ont eu un dessin, entre guillemets, organisationnel qui précédait la Deuxième République, avant que ne vienne la majorité des gares. Donc c'est vrai que les gares, c'est un petit peu l'adhésion des villes ou des gros bourgs, alors que le travail avait été fait pour les ruraux avant, notamment dans certains secteurs. Donc je ne suis pas convaincu, il y a un certain nombre de travaux en ce moment là-dessus, que la relation, la question que vous posiez soit encore historiographiquement pertinente. Mais ça, c'est un autre... c'est un autre aspect du débat ou de la question. Il y a un dernier élément, moi, qui m'intéresse, c'est que vous dites à juste raison qu'il peut être intéressant d'associer des élèves sur la recherche de données. Bon, j'oublie mon métier, mais le CJS, pour faire ça, à mon avis, non. Les TPE, probablement. Par contre, je me demande s'il n'y a pas possibilité de les associer cette fois-ci sur d'autres créneaux. C'est-à-dire, c'est pas seulement sur la totalité des cantons ou d'un département. Il peut y avoir, là aussi, la transposition de votre travail sur un échelon, cette fois-ci, de cantonal, sur un secteur donné, et pas forcément sur un département. Est-ce que vous avez essayé ça? Est-ce que vous avez été amené à réfléchir à cet aspect-là, c'est-à-dire sur une portion de territoire beaucoup plus localisée en quelque sorte.
Sur la même problématique, disons que je suis pas certain. C'est-à-dire que bon, ça renvoie à un problème là, je pense historiographique. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous disiez, pour avoir un petit peu travaillé sur la question. Si on se place dans l'optique que défend Eugène Weber, c'est-à-dire que pour lui, la politisation et finalement l'évolution des mentalités des ruraux, elle s'explique essentiellement par leur attachement au marché national et la possibilité pour un certain nombre d'entre eux, de vendre une partie de leurs produits en dehors du cadre local. Donc quand vous dites que les chemins vicinaux ont été tracés et améliorés, c'est vrai en partie sous la monarchie de Juillet, je dirais que il faudrait peut-être nuancer d'abord en fonction des lieux. Et en tout cas, en ce qui concerne la Loire, il me semble que vous avez toute une partie du département où il n'y a pas de chemin véritablement praticable praticable autrement que par des mules ou à pied. Et donc l'impossibilité pour les ruraux de vendre véritablement leurs produits et donc, d'accéder au marché national. Donc à partir de... il y a débat sans doute là-dessus. Hein. Bon, mais il y a un autre élément aussi, à mon avis, c'est pour ça que je disais que cette question, elle est quand même en grande partie fictive. Et historiographiquement, je suis d'accord pour vous dire que la problématique, elle n'est pas pertinente. C'est en tout cas pas celle que j'utilise par ailleurs, moi. En ce sens que... Il y a un certain nombre de travaux sur la politisation qui ont montré que les configurations locales jouaient un très grand rôle. C'est-à-dire que les élites locales sont souvent en rivalité, les grandes familles locales sont souvent en rivalité les unes contre les autres depuis plusieurs générations. Et l'adhésion à une étiquette politique, elle est souvent purement fictive. C'est-à-dire qu'on est monarchiste parce que la famille adverse et la clientèle adverse est républicaine, quoi, ou inversement. Donc, chercher des facteurs comme la proximité d'une route, d'une gare ou autres, des facteurs nationaux et généraux, un modèle général de politisation, je crois qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est complètement remis en cause, hein, effectivement. Donc voilà, je pense que ma problématique, c'est en ce sens qu'elle est complètement fictive. C'est plus quelque chose pour des élèves de secondaire, pour qu'ils prennent en main un outil et qu'ils fassent des hypothèses, qu'ils essayent de les vérifier concrètement. Oui. Voilà, c'est le raisonnement, mais je suis d'accord avec vous. Hein,
Je vais faire le géologue qui est dans un congrès de géographes. L'idée, c'est quand même qu'on développe une réflexion. Enfin, je vois la réflexion, elle porte sur des questions géographiques qui m'ont l'air extrêmement intéressantes. Mais je voudrais qu'on recadre le débat sur les questions d'utilisation de la géomatique. Il y avait une dernière question, là, de Thierry.
Oui, moi, j'avais une première question. Je pense qu'il faut voir une chose, c'est que les universités peuvent aider à faire le travail de collecte et d'organisation des données. Parce que les historiens étaient jusqu'à présent un peu hermétiques au SIG, mais ça change. Et je pense que c'est en s'appuyant aussi sur des mémoires de Master 1, etc., que peuvent se constituer des jeux de données qui peuvent être utilisés correctement ensuite. Enfin, il y aurait une connexion à faire. Je pense qu'il ne faut pas... Avant, ce n'était pas possible. Il y a 4-5 ans, je vous aurais dit trouver un département d'histoire dans lequel on pouvait faire du SIG. C'était vraiment difficile. Ce n'est plus le cas. Et ça va être de moins en moins le cas parce que ça s'accélère. La deuxième question, c'est... J'étais intéressé par cette idée de jeu de rôle pour placer des propagandistes. C'est classique en histoire de se mettre dans une logique comme ça. Et ça ne pose pas des problèmes de... Enfin, je sais pas, de... on joue à l'histoire. Et est-ce que ça marche avec les élèves de les mettre dans un jeu de rôle historique?
C'est vrai que quand j'ai choisi cette optique, parce que ce n'était pas une obligation, c'était dans une idée d'essayer effectivement de davantage les motiver, les mobiliser, puisque le jeu de rôle, pour certains, ça occupe une place importante de leur loisir. Je me suis inspiré de ce que pouvaient faire des collègues géographes où ils placent finalement les élèves dans une situation d'aménageur. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a sans doute là un biais auquel il faudrait réfléchir, c'est-à-dire que la géographie et placer les élèves en position d'aménageur, c'est pas la même chose que peut-être pour que de les placer en situation finalement de refaire un peu l'histoire, quoi. Je suis tout à fait d'accord, oui, c'est ça. Bah, disons que oui, ça leur pose pas problème, ça, non.
Alors, je prends une dernière question, parce que l'heure tourne aussi.
Alors, moi, j'ai une toute petite question qui n'est pas forcément pour toi, mais pour les gens qui sont là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien réfléchi à tout ça. On travaille quand même ici sur la problématique de la corrélation. Mm-hmm. Et la problématique de la corrélation, c'est forcément intégrer des outils, enfin, théoriquement, intégrer des outils statistiques.
C'est vrai.
Qui sont difficiles, enfin, qui ne sont pas très difficiles, mais qui sont très rarement abordés, même à l'université. Et voilà, j'aimerais savoir si quelqu'un a une expérience là-dessus, parce que théoriquement, il faudrait intégrer du qui d'eux, enfin, être un petit peu rigoureux là-dedans.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et le faire autrement que par l'analyse visuelle, etc.
Une relation de causalité quand on voit une corrélation.
Voilà, évidemment. Ce qu'on évoque souvent avec les élèves. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'il est fréquent ou est-ce qu'il y a des possibilités d'intégrer justement des calculs rigoureux de corrélation et des commentaires là-dessus?
Sachant qu'on a les mêmes questions dans nos disciplines SVT, où rarement on sort les outils statistiques alors qu'on sait bien que ça serait nécessaire et qu'on fait des fois des raccourcis qui sont un petit peu hasardeux. Hein.
Sans valider la corrélation. Parce que la vie de point, c'est récupérer des données qui sont techniquement en DBF, les mettre dans un Excel et faire un Excel, ce qui n'est pas compliqué. Sans faire le calcul de la valider. Mais malgré tout, pour tirer cette information de corrélation, après, est-ce que la causalité n'est pas une conséquence?
Oui, mais on a
quand même un élément. C'est
corrélé
la corrélation. Valider la corrélation. Après, il faut trouver pourquoi.
Après, on rentre dans la question du raisonnement historique, effectivement, là, jusqu'où on va dans l'interprétation des choses. Bon, merci beaucoup, Philippe. Bon, on aura une pause tout à l'heure. Hein, si quelqu'un a besoin d'interagir plus que ça avec Philippe, ça sera possible.